6h05, nous sommes déjà mardi 15 juin. Bonne journée, bienvenue au 98,5. Avec un ciel généralement couvert, ce matin c'est nuageux, donc 17 degrés, le maximum prévu autour de 22. Il y a eu de la pluie dans les dernières heures de façon intermittente. Quelques averses qui devraient débuter tôt ce matin, cesser en après-midi. Potentiel d'orage également, avec l'humidex à 27 et je vous le disais, maximum 22. Pour demain, c'est du soleil, très très belle journée, 23. Jeudi, on prévoit du soleil, 26. Et vendredi, faible risque de pluie, c'est autour de 28, assez nuageux. Mais rien de majeur, donc, mis à part cette parenthèse aujourd'hui de temps un peu plus instable, avec de la pluie, ben on se dirige vers un 48 heures de soleil. Maintenant, on va parler vaccin COVID dans deux instants, mais il y a quelques nouvelles qui frappent ce matin. D'abord, cet autre meurtre de femme à Québec, une femme dans la cinquantaine, qui a été retrouvée sans vie. On comprend que c'était un homme qui est venu se livrer à la police. Alors, d'après ce que les policiers de Québec nous disent, tout indique qu'on a affaire à un autre cas de féminicide. Il faut évidemment valider, il faut que l'enquête avance, mais ça, c'est la première chose. Sabrina parlait aussi d'un proxénète qui a été condamné. On a un autre cas, c'est un père qui nous a contactés. Sa fille de 15 ans, malheureusement, est une fugueuse. Et dans les derniers jours, elle a fait une fugue et pendant une semaine, fille de 15 ans, elle s'est retrouvée dans un hôtel de Montréal, nous dit-on. C'est la police qui l'a retrouvée parce qu'il y avait eu un avis de disparition, puis les policiers savent quels hôtels sont utilisés par des proxénètes, puis ont retrouvé la petite de 15 ans. Et je ne donnerai pas tous les détails, mais disons que quand ils ont fouillé sa chambre d'hôtel, c'était assez clair ce qu'elle faisait dans la vie à ce moment-là, avec des vêtements pour faire le travail et autres, disons, accessoires. Et elle se retrouve dans un centre jeunesse. Je vous parle de ça ce matin parce que c'est sûr que la pandémie, puis tout le dossier COVID a un peu, beaucoup même, tasser les projecteurs sur d'autres dossiers importants, mais de cas de fugue, d'adolescents, puis de maltraitance. Et je vous parle ce matin d'un jugement qui a été rendu, encore une fois, en Estrie. Ça fait déjà un certain temps. C'est un dossier, là, j'ai lu 75 pages hier, là. Je vais essayer de vous le résumer ce matin. D'abord, ça a été rendu public la semaine dernière, mais c'est une cause qui remonte, là, 2017, 2018, 2019. En gros, vous avez une mère qui n'est pas apte à s'occuper de ses enfants. Elle a toutes sortes de problèmes psychologiques, de consommation, des relations tendues avec son entourage, la difficulté à se prendre en main, essais, erreurs. Ses deux enfants vivent dans des conditions extrêmement difficiles et on place les deux dans une famille d'accueil. Ce qu'on découvre, c'est que la famille d'accueil a perdu son statut, son permis, la bouffe de mauvaise qualité pour les enfants, l'absence de surveillance, une série de griefs qui font qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un service de garde, mais qui continuent quand même d'avoir deux enfants de la DPJ dans leur maison. Et là, il y a des allusions de violence dans le couple, de crise, le ton qui monte. Et ces deux enfants-là, qui sont déjà lourdement hypothéqués, ben voient leur état décliné. Il y en a un qui est suicidaire, qui a des problèmes à l'école, un autre qui est renfermé. Finalement, c'est la grand-mère, les grands-parents qui obtiennent la garde des enfants. Mais c'est vous ce qui est grave. Et le juge ordonne à la DPJ, aux services sociaux, là, de présenter ses excuses aux enfants. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés 2 ans dans un milieu qui n'avait pas d'allure. On n'a pas été capable de leur fournir les services de spécialistes dont ils avaient besoin. Et la juge précise que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de ressources, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à trouver que c'est une raison pour priver des enfants de telles mesures. Et je vous dirais que ça fait plusieurs cas qu'on retrouve, et c'est souvent la même juge, Pascal Bérardino, qui dans ce dossier-là blâme la DPJ, blâme, et là c'est avant l'affaire de la petite fille de Granby, là. En partie. Donc, vous n'êtes pas occupé des enfants adéquatement, vous les avez laissés dans un milieu et la conséquence est grave pour ces deux enfants-là. Je rappelle que c'est la même DPJ en Estrie qui avait un batteur d'enfants comme famille d'accueil. toujours un dossier de la juge. Dans ce cas-là, Pascal Bérardino, je la cite, « Le tribunal ne peut s'expliquer comment il se fait que la directrice ne fasse pas immédiatement des vérifications d'antécédents avant de proposer un milieu. » Ça se parle pas. Je reprends l'expression de la juge, ça travaille en silo. Fait que d'un côté, tu as le ministère de la Famille qui est en train de retirer un permis de service de garde, puis de l'autre, tu as la DPJ qui dit non, non. Est-ce que c'est parce qu'on manque de familles d'accueil? Probablement. Puis qu'on n'a pas le temps de vérifier ce qu'il faut savoir. Puis on pose pas de questions. Puis on voit que les enfants vont pas bien. Ça, c'est un cas comme ça. Puis je pourrais vous ajouter un autre cas dont on va parler un peu plus tard ce matin. Puis ça touche le féminicide. Comme je vous dis... On est en territoire où les dossiers s'entrecoupent. Là. Caroline Labonté est décédée le 18 mars à Notre-Dame-des-Monts. Elle est la 9e victime de féminicide au Québec. Alors, le couple a 3 enfants, 2 ados, puis un enfant plus jeune. Et c'est toujours la même question. On fait quoi avec les enfants quand la mère a été assassinée par le père qui est en prison puis qui va perdre ses droits? Alors, les 2 ados sont en famille d'accueil dans leur coin. T'as un ami de la famille, je pense, ou en tout cas d'un des 2 ados qui a accepté de prendre les enfants. Et vous avez l'enfant plus jeune qui est chez les grands-parents. Le frère de la victime, lui, aimerait beaucoup accueillir les 2 ados. Puis même l'enfant, là, prendre tous les enfants à charge. Ils ont de la place, ils ont du temps. Il n'y a pas de testament. Donc, ils sont grands-parents, ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, ils n'ont pas eu affaire dans leur vie avec la DPJ. C'est une bonne famille. Puis là, ce matin, je n'ai pas la réponse, là. Je vous lance la question. Lui, il veut juste savoir pourquoi la DPJ favorise une famille d'accueil d'étrangers plutôt que la famille d'accueil avec un lien direct. C'est quand même l'oncle et la tante, là. Et ce qu'on croit comprendre, c'est que les enfants à 13-14 ans ont le droit de s'exprimer, puis eux préfèrent rester dans leur coin. Préfèrent rester là-bas plutôt qu'être déracinés, sans venir à Montréal. Puis ça se comprend, puis ça se défend. En même temps, dans une petite municipalité, quand ta mère a été assassinée, puis que ton père est l'auteur du meurtre, ça peut être difficile. Puis est-ce que c'est le meilleur choix nécessairement, tout en respectant la volonté des enfants? Je vous le dis, là, je ne fais que soulever des questions ce matin. Mais là où je trouve ça spécial, c'est que la DPJ ne prend pas le temps d'expliquer. Dites-le à François-Carl Labonté, les ados préfèrent rester là. Dites-lui pourquoi, puis il va comprendre. Mais c'est toujours de te laisser dans l'espèce de « Ah ben oui, on peut regarder ça », puis finalement non. Non, pourquoi? Ah, OK, ils veulent rester là, les ados, parfait. Puis c'est peut-être ça qui est le mieux, peut-être pas. Mais c'est de prendre le temps. Puis je sais que les gens n'ont pas le temps. Je le sais que les gens n'ont pas le temps, que les gens sont débordés, sont occupés. Les dossiers sortent. Mais quand même, je pense que c'est majeur dans des dossiers comme ça, parce qu'il y aura toujours des liens entre l'oncle puis les 2 ados, que ça se fasse correctement. Bon, parlons COVID. Quelques éléments à savoir ce matin. On vient d'ouvrir la possibilité de devancer le rendez-vous pour la 2e dose aux gens de 50 ans et plus. On vit le même phénomène, là. OK? C'est-à-dire que des gens qui m'écrivent ce matin, c'est le bonheur, fais le changement, c'est réglé, c'est devancé pour moi de 6 semaines, je suis heureuse, m'écrit une auditrice. Puis il y en a d'autres qui, malheureusement, se heurtent à un mur. Je rappelle les principes, là. Il y a peut-être une erreur dans votre dossier, je dis peut-être, ça peut être ça. Ça se peut qu'il n'y ait pas de vaccin disponible à ce moment-ci dans votre région et que donc les plages ne s'ouvrent pas, les plages de rendez-vous. Dans le cas de Moderna, c'est assez complexe. Puis il y a des gens qui sont frus. À 70 ans, j'ai eu Moderna. Comment ça se fait que je ne peux pas avoir ma dose de Moderna? Tout ça est lié à l'arrivée des stocks. Puis il y a du Moderna qui s'en vient, donc ça va finir par se libérer. Des gens qui ont eu AstraZeneca qui ne peuvent pas faire le changement. Et ça, ça a été confirmé par Clic Santé. Ils travaillent là-dessus, mais ça va finir par pouvoir se faire. Autrement dit, il y en a que du beurre dans la poêle, puis d'autres... Pour tous ces enjeux-là, le fameux délai de 8 semaines, puis bon, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a du sans rendez-vous. Mais la vaccination avance. Il y a encore une certaine résistance dans la population un peu plus jeune, là, peut-être disons que les 18-30 ans, 35 ans, là, on pourrait peut-être souhaiter un meilleur taux. Mais au Québec, il faut s'attendre globalement à ce que 80 % des Québécois se fassent vacciner avec les deux doses. Ça ne sera jamais 100 %. Mais 80 %, c'est quand même très satisfaisant. Et on le disait, les deux doses de vaccin semblent assez bien protégées contre les variants, en tout cas contre les effets secondaires qui sont les plus dévastateurs, là, c'est-à-dire te retrouver à l'hôpital, soins intensifs, puis même en mourir. Hier, le ministre Dubé a dit que, grosso modo, le trois quarts des gens qui ont eu la COVID, les nouveaux cas, là, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Alors, d'où l'importance de la vaccination. Alors, premier point peut-être là-dessus. Maintenant, concernant la fameuse quatrième vague, j'y viens vite, là, il y a une lettre signée par des gens de santé publique puis des médecins qui nous préviennent d'une quatrième vague. Mais une quatrième vague, quand vous avez un taux de vaccination aussi élevé, bien, c'est sûr que ça n'a pas le même effet. Donc, ils nous disent, attendez-vous à une vague quelque part en septembre et en octobre. Tu dis, OK, très bien. Lance cette prédiction-là. Et comment faire pour que ça soit moins dévastateur? Bien, la vaccination, mais eux proposent également de mieux contrôler, encore une fois, les entrées aux frontières, dépister les cas, isoler les contacts plus vite, permettre aux laboratoires régionaux de cribler les variants, avoir un accès plus facile aux tests de dépistage rapide. Ça, là, c'est un enjeu que moi, j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'au Québec seulement, là, on n'est pas capable de les utiliser avec efficacité. Ils sont là, on a payé pour. Pourquoi on s'entête à ne pas s'en servir? C'est une aberration, mais qu'est-ce que vous voulez? Puis soutenir les quartiers défavorisés les plus touchés et tiens, mieux ventiler nos écoles et nos lieux de travail. Alors, tout ça pour, en plus de la vaccination, essayer d'amenuiser, si on veut, l'effet dévastateur de peut-être cette quatrième vague. Puis il y aura toujours une pandémie là, qui va nous tourner autour. Alors, vous pourrez lire ça ce matin dans la presse. Également, le gouvernement du Québec qui met un peu un stop à la médecine à distance, ou en tout cas, veut mieux l'encadrer. Les médecins devront limiter la pratique de la télémédecine aux patients qu'ils connaissent déjà. Autrement dit, tu ne prends pas un premier patient sans au moins le rencontrer une première fois en réel. Bon. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'il y a un certain nombre de médecins qui n'ont pas vu tant de patients pendant la crise en réel, là, puis qui faisaient beaucoup de consultations. Puis quand tu fais beaucoup de consultations à distance, ça peut vouloir dire une augmentation du nombre de tests, puis dans certains cas, référer les patients ailleurs. Tu sais, je ne peux pas voir, mais si vous avez ça, passez donc par l'urgence. Donc, la pratique va demeurer parce que dans bien des cas, tu n'as pas besoin d'une rencontre réelle. Mais il y a une directive ministérielle qui limite la téléconsultation aux patients inscrits dont les problèmes de santé sont connus et pas trop complexes. Pour les autres, là, une première visite ou quelqu'un qui a vraiment un problème plus lourd, bien, ça suppose qu'il faut avoir un rendez-vous en réel. Puis, je vais vous parler de la santé publique puis du sport, là. Puis on en jasait hier matin justement avec Bernard. Là, on a décidé de laisser les bars ouverts, puis 2h du matin, puis on va pouvoir servir de l'alcool plus tard. On comprend que c'est un ajustement, parce que les propriétaires l'ont demandé, puis les matchs commencent à 9h, puis tu veux pas mettre le monde à la porte pendant, je sais pas moi, la troisième période ou la prolongation. Alors ça, tu dis, OK, c'est correct. On a fait ça parce que c'est un ajustement qui est raisonnable. Et M. Legault met beaucoup de pression sur le Dr Arruda pour augmenter le nombre de partisans. On a vu la foule hier à Las Vegas, puis on se dit, bien, à Montréal, tu peux pas te ramasser avec 2500 personnes éparpillées dans le Centre Bell, ça n'a pas de bon sens. Puis le PM se promène avec son chandail du Canadien, puis il veut que la foule devienne donc le joueur supplémentaire quand on va se retrouver ici à la fin de la semaine. C'est pas quelle sera la décision de la santé publique, mais là, c'est comme une commande qui est passée. Puis, il faut qu'il y ait une cohérence. Si tu permets ça, bien, il faut que tu permettes d'autres choses. Je parlais de tennis. Là, on autorise le tournoi, puis on ne sait pas encore s'il y aura des spectateurs. On pense que oui, dans la mesure où c'est au mois d'août, c'est en plein air, au parc Jarry. Alors ça, c'est à venir. Donc, j'imagine que le Dr Arruda, parce que le match va être présenté vendredi à Montréal, va devoir rendre sa décision quelque part, quoi, mercredi ou plus tard, pour permettre aux Canadiens de vendre des billets puis s'organiser. Alors, tout ça est à suivre. Le Journal de Montréal revient ce matin sur un autre cas de pénurie, c'est-à-dire service de soins en domicile. À domicile, on a augmenté les effectifs, mais ça marche pas. Puis donc, vous regardez partout au Québec dans les services, là, garderie, obligé de baisser un peu les critères, manque de monde. DPJ, on cherche du monde. Soins à domicile, on cherche du monde. Dans le réseau de la santé, la misère à recruter et à garder des employés qui vont beaucoup, et c'est clair, là, vers des emplois peut-être moins stressants où ils ont une meilleure qualité de vie dans le secteur privé. Un mot sur les Forces armées canadiennes. D'abord, on a appris que le major général Danny Fortin contre-attaque, s'occupait de la campagne canadienne de vaccination. Il y a eu une affaire d'allégation déposée contre lui qui remonte à l'époque où il était au Collège de Saint-Jean. Et d'abord, il prétend que c'est faux et qu'il a été injustement relevé de ses fonctions. Puis vous avez le numéro 2, Mike Rouleau, lui, qui a décidé de démissionner, mais il reste au sein des Forces armées, là. Il est allé jouer au golf avec l'ex-patron des Forces armées canadiennes, le chef d'état-major Vance, qui fait l'objet d'allégations, d'accusations de nature sexuelle, de relations inappropriées. Il a dit, nous, en chum, on a joué au golf, on n'a pas parlé de son dossier. Bon, je ne peux pas dire que c'est le championnat du jugement, là, quand tu es un haut gradé de l'armée, puis que l'autre est sous enquête. Également, rapport de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal. Ça, c'est assez intéressant. C'est sur un contrat de déneigement de plusieurs millions. Et c'est une entreprise, Excavation Anjou, qui s'est fait interdire d'avoir des contrats. Pourquoi? Parce qu'il aurait été utilisé par un prête-nom pour une affaire de remorquage. On sait que le milieu du remorquage est un milieu parfaitement propre, sain. Alors, M. Dubé n'a pas le droit de soumettre sa candidature pour des contrats. Au registre, donc, des personnes inadmissibles. Alors, il y a une compagnie qui a été créée qui s'appelle Déménagement NASA, qui sont les têtes dirigeantes. Ben, c'est Nancy Desjardins, sa femme, puis son fils Samuel Dubé, qui sont les seuls actionnaires. Puis lui, il dit, ah, m'occupe pas de ça. Non. Alors, les enquêteurs sont allés voir sur le terrain, ont remarqué qu'ils jouaient un rôle actif, ils ont parlé à des employés. Ben, bon, bref, ils ont fait le travail d'enquête, puis ils découvrent quoi? Que le gars est évidemment dans l'ombre, tire les ficelles, ce sont ses équipements, puis voir si c'est sa femme puis son fils qui gère ça pour vrai. T'sais. Alors, il fait indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement. Lui conteste d'ailleurs le fait qu'on l'ait placé dans le registre. Alors, il y a des enjeux légaux qui sont présentement débattus, alors personne ne commente. Mais, tu sais, c'est un classique, on a vu ça dans d'autres secteurs, dans le remorquage aussi. Monsieur ne peut pas, madame prend la relève, madame est présidente, chef de la direction de la compagnie à numéro, mais c'est monsieur qui, dans le fond, est celui qui opère. On va vous parler également du projet pilote à la police de Longueuil avec le directeur du service, M. Daguerre, tantôt, concernant donc cette approche projet pilote, pas d'armes, pas d'uniforme, tout ça pour essayer de voir comment on peut, être plus efficace dans certaines circonstances. Puis je vais vous parler peut-être tantôt aussi du plan pour revitaliser la rue Saint-Denis. C'est bien le fun, là, l'autoroute des vélos, là. Mais il y a bien des commerçants qui disent « c'est pas payant pour moi. Je suis pas le genre de commerce. Si t'as un café ou certains types d'établissements, peut-être. » Mais comme disait un des commerçants qui m'écrivait l'autre jour, t'sais, l'autoroute, tu passes. Fait que tu peux arrêter, comme on dit, prendre un petit café, mais c'est pas une destination agréable pour un certain type de magasinage. Puis d'ailleurs, pandémie aussi, disons que le taux de locaux vides demeure élevé sur la rue Saint-Denis. 6h25 avec tout ça. Allons voir le secteur de Repentigny.